Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la profanation du cimetière juif de Carpentras en mai 90. Humilier les morts pour terroriser les vivants. Plus d'un quart de siècle après les faits, l'affaire Carpentras reste l'une des plus marquantes de la 5e République. Par sa nature d'abord, un acte antisémite mis en scène de façon démoniaque. Par l'ampleur de ses répercussions. Dans les jours qui suivent, la France plonge dans un état de sidération face à cette transgression qu'est la profanation de tombes. Enfin, par l'exceptionnelle mobilisation politique et médiatique qu'elle a suscitée. Une mobilisation qui ira jusqu'à faire descendre dans la rue un président de la République en exercice, François Mitterrand en l'occurrence, du jamais vu. Que s'est-il passé exactement en cette nuit du 8 au 9 mai 90 dans le cimetière juif de cette ville du sud de la France? Pourquoi l'enquête a-t-elle mis plus de 6 ans à aboutir? Quelles ont été les conséquences de cet événement sur la vie publique française? Après le récit, nous essaierons de comprendre pourquoi l'antisémitisme est si présent aujourd'hui encore, avec des agressions, des tags haineux, des lieux de mémoire profanés, des insultes insupportables sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, là, en 2019. Nous en parlerons avec nos deux invités, le grand rabbin Raïk Krief, de la synagogue Vincennes-Saint-Mandé, et le journaliste, grand reporter et conseiller éditorial à l'Obs, Mathieu Aron, auteur d'une longue enquête intitulée « Menacé comme un juif en France ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Schlegle et Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Bonsoir. Les choses ont bien changé, Monsieur Le Pen, depuis votre dernier passage à l'heure de vérité, il y a très exactement un an. Votre parti, le Front National, est en train de prendre une autre dimension. Il s'organise pour la conquête du pouvoir. Vos candidats gagnent du terrain dans les élections partielles. Et les derniers sondages vous accordent 15% des intentions de vote. Ce matin, dans Le Figaro, vous affirmez que le Front National sera bientôt le premier parti de droite.
Le 19 mai 1990, il est 21h. À la télévision, sur Antenne 2, le journaliste François-Henri de Virieux anime le grand rendez-vous politique du service public, l'émission L'Heure de Vérité. Ce soir, l'invité, c'est Jean-Marie Le Pen. Sur le plateau, face aux caméras, les sourires sont de rigueur. L'émission débute et suit son rituel bien rodé. Les uns après les autres, les journalistes interrogent le président du Front National sur différents sujets. Jean-Marie Le Pen répond aux questions, parfois avec mauvaise foi, parfois avec détour. Une décontraction de façade. Car à quelques mètres de là, en coulisses, l'ambiance est crispée. La production redoute un nouveau dérapage. Entre outrances révisionnistes sur les chambres à gaz, qui ne serait selon lui qu'un détail de l'histoire, en passant par les propos injurieux contre l'ancien ministre Michel Durafour, qu'il avait surnommé Durafour crématoire, Jean-Marie Le Pen n'en est plus à une polémique près. D'autant que ce soir-là, il est furieux contre Antenne 2 qui a décalé l'émission d'une journée pour ne pas avoir à la diffuser le soir du 8 mai, journée symbolique de l'armistice de 1945. Furieux également d'avoir été remplacé la veille par la diffusion du documentaire sur la Seconde Guerre mondiale de Frédéric Rossif intitulé « De Nuremberg à Nuremberg ». Un film que le leader du FN considère partisan d'une vision monolithique et archaïque de l'histoire, je le cite. À cela, il faut aussi ajouter la colère qui agite Jean-Marie Le Pen depuis plusieurs semaines à cause du projet de loi Guesso, un texte qui vise à réprimer le racisme et les propos antisémites, ce que le leader du FN considère anti-républicain et anti-français. Quelques jours plus tôt, pour l'habituel défilé de l'extrême droite du 1er mai, le président du Front National avait menacé.
Le Front National, quant à lui, a toujours affirmé et réalisé dans ses actes le respect le plus absolu de la Constitution et des lois. Mais il entend que les intérêts de la France, ceux de ses électeurs, soient respectés scrupuleusement. et nous prendrons, s'il le faut, en temps utile, toute disposition. J'appelle, en même temps qu'à la vigilance et à l'action, j'appelle à la discipline nationale tous nos militants qui, si besoin était, recevraient les ordres que leurs dirigeants leur donneraient.
Des propos qui s'inscrivent dans la continuité du discours frontiste qui, en ce printemps 90, déverse quotidiennement sa haine contre les étrangers dans les médias ou au cours de rassemblements publics. Faut-il y voir un lien de cause à effet avec toutes ces histoires diffusées semaine après semaine dans la presse? Celles qui parlent de ratonnades menées par des groupes de skinheads contre des maghrébins, celles qui évoquent des agressions à caractère antisémite en plein Paris ou encore celles qui dénoncent des profanations de lieux de culte sur tout le territoire. À cela, ajoutons qu'en plus des scores préoccupants du FN aux élections, deux des universités de Lyon sont devenues des repères de négationnistes sous la houlette de leur leader, Robert Forisson. Et rappelons que quelques jours avant l'émission L'heure des vérités avec Jean-Marie Le Pen comme invité, des inscriptions à la peinture jaune ont été retrouvées sur des façades de plusieurs magasins d'Avignon. Judenhaus, les Juifs dehors, les mêmes mots que ceux prononcés par un certain Adolf Hitler en 1933 à Nuremberg. Voilà pour le contexte et le climat en France au moment où le leader du Front National intervient sur Antenne 2 ce mercredi 9 mai 1990. Et où, pendant une heure, fidèle aux idées qu'il défend, il se livre en spectacle. Se déclarant tour à tour contre l'avortement, pour la suppression du revenu minimum qui ne profite qu'aux étrangers, selon lui, et contre la loi antiraciste qu'il veut combattre. Alors que l'émission touche à sa fin, un journaliste l'interroge sur un étonnant sondage que Jean-Marie Le Pen a lui-même commandé au sein de son parti.
Il y avait une dernière question dans le questionnaire sur laquelle je voulais votre sentiment à vous personnel, parce que pensez-vous, donc, comme 88% de vos cadres, que les Juifs aient trop de pouvoir en France aujourd'hui? C'est une question à laquelle ils ont répondu là encore massivement. Alors vous-même, comment vous réagissez?
Ça dépend dans quel domaine. Que les Juifs aient beaucoup de pouvoir dans la presse, comme les Bretons en ont dans la marine et les Corses dans les douanes,
ça ne me paraît pas d'un peu discutable.
Une page à caractère antisémite, quoi qu'il en soit. François-Henri de Verrieux termine l'émission. Les téléspectateurs éteignent leur poste de télévision. La France s'endort. Qui peut alors imaginer que 45 ans après la Seconde Guerre mondiale, c'est tout un pays qui s'apprête à découvrir l'innommable? Le lendemain matin, jeudi 10 mai 1990, il est 11h. Dans le sud de la France, les températures sont déjà estivales. À Carpentras, ville paisible de 25 000 habitants située à quelques kilomètres au nord-est d'Avignon, la vie suit son cours. À l'entrée de la commune, à l'ombre d'un aqueduc, se trouve l'un des plus anciens cimetières juifs d'Europe. Vers 11h30, deux femmes se présentent aux grilles. Elles remontent l'allée principale et se dirigent vers la tombe de leur défunt. Mais soudain, elles s'arrêtent, pétrifiées. À quelques mètres d'elle se dresse un spectacle d'épouvante. Des stèles sont brisées, des tombes sont renversées, des pierres tombales ont été soulevées. Un peu plus loin, comble de l'abomination, elle découvre cette scène. Le cadavre d'un homme sorti de terre. Prise de panique, elle prévient le gardien du cimetière. Ce dernier alerte à son tour la police. À 11h50, les hommes du commissariat de Carpentras arrivent. Les deux femmes sont toujours en état de choc. Les policiers découvrent à leur tour la mise en scène macabre. Telle une plaie béante, ils aperçoivent un énorme trou dans le sol. Et à côté, un cadavre, dans son linceul blanc. Exhumé de sa tombe, arraché à son cercueil, il gît allongé, les jambes écartées sur une sépulture voisine. Comble de l'horreur, on a, semble-t-il, tenté de l'empaler avec un pied de parasol. Sur le corps profané, les policiers constatent la présence d'une étoile de David en métal argenté. À hauteur des parties génitales, une plaque de granit sur laquelle on peut lire « Souvenirs des voisins ». À côté de la tête, une vieille canette de bière. Un peu plus loin, les riverains consternés témoignent.
C'est spectaculaire, disons, certaines tombes. Hein. C'est de la rigolade. Hein.
Ce sont des gens, ce sont des débiles mentaux. S'attaquer à des morts, je vais vous dire une chose, il faut être vraiment bas sur terre. Et ces gens-là, je vais vous dire une chose, si vraiment il y avait une justice, ils devraient remplacer les morts.
Il est 13h, ce jeudi 10 mai 1990. La nouvelle de la profanation est encore confidentielle. Le procureur local, André Chapon, demande aux journalistes régionaux de ne pas les bruiter. À l'appel de ses représentants, la communauté juive de Carpentras consent, elle aussi, à se taire. Tout le monde souhaite éviter de faire de la publicité à une telle action. Tout le monde souhaite que le calme revienne à Carpentras et que la police traque dans l'ombre le ou les auteurs de cet acte odieux. Car au moment où les policiers s'activent pour identifier la dépouille de l'homme retrouvé au cimetière, à 60 km plus au sud, à Nîmes, on informe le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Pierre Jox, de la sinistre découverte. En pleine réunion de travail sur le plan de lutte anti-incendie dans la région, il interrompt alors les débats et s'entretient avec ses conseillers. Sans hésiter, il décide d'accompagner le préfet de Vaucluse à Carpentras. Sur place, au cimetière, les enquêteurs mettent au jour l'identité de la victime. Il s'agit de Félix Germont, 81 ans, enterré quelques jours plus tôt. L'homme, de confession juive, n'était pas pratiquant. Fait rarissime, sur demande des responsables de la communauté juive et avec l'accord du procureur, il est inhumé une nouvelle fois, immédiatement, sans examen du corps. À 17h, l'hélicoptère rouge et blanc de la sécurité civile, à bord duquel a pris place le ministre de l'Intérieur, se pose à proximité du cimetière de Carpentras. Accompagné d'une nuée de photographes, journalistes et caméramans, le ministre entre dans le cimetière. Un quart d'heure plus tard, la visite se poursuit à la synagogue de Carpentras, où il s'entretient avec les responsables de la communauté. En sortant, pris par l'émotion, le ministre s'adresse aux caméras.
Lorsque les criminels sont connus, on doit les dénoncer. Nous les connaissons. Je dénonce donc le racisme, l'antisémitisme, l'intolérance. Et je pense que tout le monde en France ressentira, comme nous, chagrin et pitié.
Monsieur le ministre, quand vous dites que vous les connaissez, qui sont-ils ?
Je les ai nommés.
Nous les connaissons. Les mots du ministre de l'Intérieur interpellent. Faut-il y voir une première piste pour l'enquête ? Ou s'agit-il simplement d'une réflexion d'ordre plus général liée au contexte qui agite la France ? Toujours est-il qu'en cette journée du mercredi 10 mai 1990, alors que le soleil se couche sur Carpentras, l'affaire de la profanation du cimetière juif est devenue une catastrophe nationale. Le lendemain matin, jeudi 11 mai 1990, dans toutes les salles de rédaction, l'affaire Carpentras monopolise éditorialistes et reporters. D'un quotidien à l'autre, à la une, les titres se rejoignent et en disent long sur l'état d'esprit ambiant. Libération parle d'outrage, l'Humanité d'actes barbares, le Figaro d'horreur. À la télévision, on s'interroge qui a pu commettre un tel acte et surtout pourquoi et comment la République peut-elle surmonter un tel événement. Du côté de la classe politique, quel que soit le parti, quel que soit leur rang, chacun fait preuve de gravité et de discipline. La veille, dans le plus grand secret, le président Mitterrand s'est rendu au domicile du grand rabbin de France, Joseph Sitruk, pour l'assurer de son soutien. Parmi les rares personnalités qui prennent la parole à la télé, il y a le président de l'Assemblée nationale, Laurent Fabius.
Je voudrais vous dire, même si c'est un peu dur à écouter, ce que ça veut dire la profanation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont morts et qu'on a souillé leur tombe. Et ça veut dire que, en particulier pour l'un d'entre eux, on a sorti le cadavre et on lui a enfoncé un manche dans l'anus. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on dit cela, ça veut dire que on a voulu tuer deux fois ces gens. D'abord parce que on a commis un acte homicide et on a voulu tuer en plus le souvenir et la mémoire. Je voudrais que on pense à ce que tous les discours de haine, de racisme, d'antisémitisme, d'exclusion, tout ce à quoi ça peut conduire.
Pointé du doigt, visé par tous les regards et cible de toutes les critiques, le Front National se pose en victime et contre-attaque. Son leader historique, Jean-Marie Le Pen, celui qui deux jours auparavant, dans l'heure de vérité sur Antenne 2, affirmait encore que les Juifs ont trop de pouvoir dans les médias, comme les Bretons dans la marine. Ce même Jean-Marie Le Pen dénonce une machination politique organisée par le pouvoir, je le cite bien sûr. Lors d'une conférence de presse, boycottée par une partie des journalistes, le président du FN estime qu'il faut plutôt chercher du côté des communistes, qui semblent être les maîtres d'œuvre de toute cette opération, dit-il. De leur côté, plusieurs cadres du parti d'extrême droite, dont Bruno Maigret, montent au créneau. Ils affirment que le Front National et ses dizaines de milliers de sympathisants n'ont pas à être les boucs émissaires de ce qu'ils qualifient de politique de propagande organisée par le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe. Stratégie de défense qui ne convainc pas le président de la Ligue des droits de l'homme, entre autres, Yves Jouffa. Joint au téléphone par France Inter, il accuse.
Je constate qu'on assiste aujourd'hui à une escalade dans l'horreur antisémite. On dit que l'acte n'est pas revendiqué. Mais j'accuse l'extrême droite et son chef d'attiser quotidiennement la haine raciale, ce qui provoque des actes aussi odieux que celui que nous avons à déplorer. Je n'accuse pas l'extrême droite d'avoir commis, j'accuse l'extrême droite et son chef d'attiser quotidiennement la haine raciale.
Alors que la République est en deuil, alors que la France se recueille, Madeleine Germont, 80 ans, la veuve de Félix Germont, dont la sépulture a été profanée, ne sait toujours rien du drame. Personne ne l'a prévenue. C'est par téléphone qu'un de ses proches l'informe, en milieu de journée. Quelques heures plus tard, Madeleine Germont est là, dans le petit cimetière juif de Carpentras, en présence du grand rabbin Sitruk, pour assister à la cérémonie du Kaddish, la prière des morts, dans la religion hébraïque. Autour d'elle, toute la République a fait le déplacement. On aperçoit Pierre Joxe, bien sûr, aux côtés de Lionel Jospin, plus loin, Pierre Bérégovoy, Gilles Ménage, le chef de cabinet de François Mitterrand, mais aussi Jacques Chaban-Delmas, François Léotard, Pierre Mauroy, Jack Lang ou encore Jean-Claude Gaudin. Autre présence remarquée, celle du prix Nobel de la paix, ancien rescapé des camps de la mort, Elie Wiesel. Malgré l'émotion qui la submerge, Madeleine Germont reste silencieuse, droite, digne. Mais à la fin de la cérémonie, elle craque face aux caméras.
C'est mon mari qu'on a empalé. C'est mon mari, il n'y a même pas 15 jours qu'il est mort, alors. Comme il était le dernier, ils en ont profité. Ils ont essayé de toucher la tombe à côté d'une personne âgée, ils n'ont pas eu le temps. Mais celle de mon mari. Mon mari. C'est épouvantable. Il faut les punir.
Rentrant chez elle, à la tombée de la nuit, Madeleine Germont se retrouve seule, bouleversée par l'épreuve. Soudain, le téléphone sonne. Elle entend alors la voix froide d'un homme qui lui dit « C'est moi qui ai fait ça à ton mari, ton tour viendra bientôt. » Lundi 14 mai 1990, Paris, place de la République, il est 18h30. Quatre jours après la découverte de la profanation, ils sont plus de 200 000 à descendre dans la rue à l'appel du Conseil représentatif des institutions juives de France. La foule est dense et silencieuse. Les gens sont venus en famille, avec des amis ou parfois seuls. Comme lors de la cérémonie à Carpentras, on croise une multitude de représentants politiques dans le cortège. La présence de l'un d'eux est symbolique. Il s'agit du chef de l'État, François Mitterrand, oui, en personne. Le président de la République a tenu à participer au rassemblement et il le redit, il sera toujours là pour barrer la route à ces forces brunes qui essaient de salir l'image de la France et de diviser les Français, pour reprendre ses mots. En tête du défilé, sur les grandes banderoles, on peut lire « Non au racisme, non à l'antisémitisme ». Dans cette foule pacifique, parmi la multitude d'anonymes, une mère et sa fille témoignent.
Je n'ai pas peur, ce que je souhaite c'est manifester le respect. Je crois que chaque être a droit au respect dans ce qu'il est, donc je crois que c'est important. Ce qui s'est passé la semaine dernière est inacceptable.
Moi je suis venue parce que je trouve ça écœurant tout ce qui s'est passé et puis...
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, qu'on fouille les tombes, qu'on empale les cadavres. Puis en plus, c'est pas de leur faute, ils sont morts et puis les poursuivre jusqu'à leur mort, c'est écœurant.
Présente elle aussi dans la foule, Simone Veil rappelle qu'on ne peut pas accuser sans preuve, certes, mais qu'il règne autour de l'extrême droite un climat nauséabond fait de suspicions qui nuisent à l'apaisement. Un peu plus loin derrière elle, justement, on aperçoit, portée sur un plateau de bois, un poteau de bois, une grande marionnette dont le visage ressemble à celui de Jean-Marie Le Pen. Elle porte un t-shirt où est inscrite la mention « Carpentras, c'est moi ». Quelques instants plus tard, la marionnette est brûlée dans le cortège, face aux caméras. Pendant ce temps, à Carpentras, l'enquête commence à peine. Elle durera 6 ans.
There's a gold shadow seeping through the door. There's a cold sparrow lying still upon the floor. Dead and true as lipstick, slow as the speed of skin. There's a gold shadow growing from within. There's a bent willow in the moonlight painted blue. There's a spent window silhouetting you. Deep and true as whiskey, soft and sure as lies, there's a bent willow reflecting in your eyes. But now there's a girl out in a boat, her arms are outstretched and she's barely afloat. There's a man on the shore, a rope in his hand. It's tied to the board and he's pulling as hard as he can. Not to bring her to him, but to pull the whole shore and the whole world within to her open door. All his voices are her, all his voices are her, all his voices are her, all his voices are her. Has he been here before? Nobody's sure.
France Inter, il est 7h. Bonne matinée à tous, Intermatin samedi, Claude Méno.
Cet attentat est particulièrement abject, quels qu'en soient les auteurs, quelques soins qu'ils prennent d'agir dans l'ombre, lâchement, contre des morts, il faut qu'ils soient retrouvés et châtiés. Un message très clair de François Mitterrand, adressé au président du consistoire israélite de Carpentras, justice doit être faite. Après la profanation du cimetière juif de Carpentras, l'indignation est bien évidemment générale dans toute la France. Personnalités politiques, artistiques et innombrables anonymes se sont encore rendus hier sur les lieux de ce crime sans précédent pour exprimer leur tristesse.
Vendredi 11 mai 1990, au moment où Carpentras et la France sont en deuil, l'enquête judiciaire démarre. Ce sont les policiers du SRPJ d'Avignon qui sont en charge du dossier. Très vite, les hommes du commissaire Dac et du Montier font face à la pression politique et médiatique. La veille, le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, avait été clair. Il faut passer au crible tout ce que le Vaucluse, tout ce que les régions voisines comptent de groupuscules, d'organisations paramilitaires, de skinheads et de nostalgiques du Troisième Reich. Les responsables politiques veulent des résultats et vite, car il s'agit d'envoyer un message fort à l'opinion. Grâce aux informations fournies par les renseignements généraux, la police effectue des descentes dans les milieux nationalistes français et dans les mouvements jugés proches de l'extrême droite. Chaque individu est interrogé sur son emploi du temps dans la nuit du 9 au 10 mai. L'un d'entre eux retient toute l'attention des enquêteurs. Il s'agit d'un jeune homme de 20 ans, membre du PNFE, le Parti Nationaliste Français et Européen, au casier judiciaire déjà bien rempli. Son nom, Jean-Claude Gault. Faute d'éléments à charge, il est relâché quelques heures plus tard. Après, c'est un autre membre du PNFE, un dénommé Patrick Laonegro, qui est arrêté lui aussi, interrogé. Avec eux, une vingtaine d'autres personnes sympathisantes FN ou apparentées. Car dès le début, les policiers sont certains que Carpentras est une affaire locale et qu'elle implique des jeunes proches du PNFE. La juge, Sylvie Motte, ordonne une autopsie du corps de Félix et une fouille complète du cimetière. Un élément étonne alors les enquêteurs. Les profanateurs n'ont pas signé leur crime. Pas de tag au slogan antisémite, pas de croix gammée, aucune inscription. Au même moment, apparaissent dans la presse les premières critiques. La police se serait trompée en pensant que la profanation avait eu lieu la veille de la découverte, alors que plusieurs témoins parlaient de bruits étranges l'avant-veille. Apparaissent aussi une multitude de revendications tout aussi farfelues les unes que les autres, mais également de fausses dénonciations dues à la médiatisation de l'affaire. Autant d'éléments à l'origine d'une dérive de l'enquête. Et puis il y a cette rumeur persistante à Carpentras, selon laquelle la profanation serait l'œuvre de fils de notables locaux, dont le fils du maire qui irait au cimetière pour boire, fumer, s'adonner à des fêtes. La rumeur parle aussi de trafic de drogue, de parties fines et de balais roses. Après plusieurs mois d'investigation, des centaines d'auditions et des milliers de procès-verbaux, les policiers et la juge doivent se rendre à l'évidence, l'enquête piétine. Il faudra attendre 5 ans pour qu'enfin un nouvel élément, ou plutôt un nouveau témoignage, fasse rebondir l'affaire.
Pour la profanation de Carpentras, vous saviez depuis quand ?
Depuis les 90.
Et comment l'avez-vous su ?
Par une amie d'un profanateur.
Qu'est-ce qu'elle vous a raconté ?
Bah, qu'ils avaient fait des consultières, qu'ils avaient déterré M. Germont, puis le, voilà, c'est tout.
Et les autres stèles déplacées, tout ça, c'est eux aussi ?
Non, c'est pas eux.
Vous en êtes sûr ?
Oui.
Août 95, alors qu'on ne parlait plus de Carpentras, une jeune femme du nom de Jessie Foulon se présente aux policiers, dans le cadre d'un autre dossier. Elle affirme aux enquêteurs que le petit ami de l'une de ses copines organisait des jeux de rôle dans le cimetière et que ce sont ces mêmes gens, fils de notables locaux, dont le fils du maire et du marbrier, qui ont participé à la profanation du cimetière juif dans le cadre d'un jeu dit de la sorcière. Certains n'ont rien vu, mais ces propos liés à la rumeur font sens selon les policiers. On pense alors que l'enquête va aboutir. Cette piste locale dédouane de facto Jean-Marie Le Pen et le Front National. Le leader du FN ne manque pas d'ailleurs de se présenter de nouveau en victime et demande des excuses publiques. Le 11 novembre 1995, ils sont des milliers à défiler à Carpentras à l'appel du Front National. Quelques mois plus tard, en février 96, coup dur pour l'enquête, Jessie Foulon refuse la confrontation avec ceux qu'elle accuse du crime. Le témoin numéro un de toute l'affaire est décrédibilisé. De son côté, la juge Sylvie Motte est persuadée d'avoir affaire à une mythomane. Nommée par la justice, un psychiatre découvre en effet que Jessie a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et qu'elle a une personnalité d'affabulatrice, comme disent les psys. La piste des fils de notables s'effondre. En même temps, les rapports entre la juge Motte et le procureur Tissot sont devenus exécrables. Alors, la magistrate jette l'éponge. Il faut attendre le 30 juillet 1996 pour qu'un nouveau coup de théâtre ne vienne enfin révéler la vérité dans toute cette affaire. Ce jour-là, un jeune homme de 26 ans, du nom de Yannick Garnier, se présente de lui-même au bureau des Hergé d'Avignon. L'homme veut parler, c'est clair. Face aux policiers, tout d'abord sceptique, il livre des détails inattendus qui ne figurent pas dans la presse et que seuls policiers et juges connaissent grâce au dossier d'instruction. Alors l'homme raconte. Ce coup, il l'a fait avec 4 autres individus, oui. Tous des skinheads, comme lui, et pour la majorité membres du parti d'extrême droite, le PNFE. Ils avaient méticuleusement monté leur opération pour qu'elle soit spectaculaire, justement. Le mot d'ordre était de déterrer un juif. Ce soir-là, au cimetière, ils ont tenté de forcer plusieurs pierres tombales avant de se rabattre sur la tombe encore fraîche de Félix Germont. Ils ont soulevé le cercueil avec un tuyau d'arrosage, puis ils ont déterré le cadavre, tenté de le décapiter, sans succès, avant de l'empaler pour rendre le geste plus théâtral. En repartant, ils ont brisé quelques pierres tombales. Voilà pour l'histoire. Aux enquêteurs, Garnier donne 4 noms. Celui de Jean-Claude Gault, le chef de l'opération, membre du PNFE, déjà interrogé par la police et mort depuis dans un accident de la circulation. Celui de Patrick Laonegro, l'idéologue du groupe, lui aussi au PNFE. Et enfin, ceux de 2 lampistes, Olivier Fimbry, un militaire du 152e régiment d'infanterie, et Bertrand Nouveau, sympathisant d'extrême droite. Ces hommes passeront tous aux aveux. Les 4 hommes sont condamnés. Mais malgré l'acte sordide perpétré au cimetière, il n'existe pas de sanction adaptée dans le code pénal. La peine la plus lourde est de 2 ans de prison. Bien peu au regard des 6 années d'enquête. Bien peu au regard de l'acte et de sa charge symbolique si douloureuse. Quelques mois plus tard, fin 96, malgré le procès, une partie de la ville reste toujours persuadée que derrière cette affaire se cache une autre vérité, celle d'un complot organisé par des fils de notables. Pour beaucoup, le dénouement officiel de cette affaire, la piste d'un groupe de skinheads, non, tout cela semble trop simple. Comme si, au bout du compte, à Carpentras, il ne pouvait y avoir de vérité acceptable pour un tel acte.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la profanation du cimetière juif de Carpentras avec nos invités, le grand rabbin Rai Krief de la synagogue Vincennes-Saint-Mandé. Bonjour.
Bonjour.
Et Mathieu Aron, journaliste. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter et conseiller éditorial à l'Obs. Vous avez créé et dirigé la première direction des enquêtes et de l'investigation de Radio France, ici même, entre 2014 et 2016. Et vous avez écrit un article sur les juifs en France. Alors d'abord, je rappelle qu'il n'y a pas de question juive. La judaïté ne pose pas question. En revanche, il y a une question antisémite et celle-là est grave. Elle est sévère, c'est celle dont nous allons parler. Je voudrais quand même vous lire, avant de vous donner la parole, ces quelques phrases de Jean-Paul Sartre. Il écrivait « L'antisémite est un homme qui a peur, non des juifs certes, mais de lui-même, de sa conscience, de sa liberté, de ses instincts, de ses responsabilités, de la solitude, du changement, de la société et du monde, de tout. Sauf des juifs, c'est l'homme qui veut être roc impitoyable, torrent furieux, foudre dévastatrice, c'est tout, sauf un homme. » Voilà, aujourd'hui en 2019, avec cette recrudescence de l'antisémitisme, effectivement, ça nous renvoie aussi à ce qui s'est passé donc à Carpentras, l'histoire que nous vous avons racontée et rappelée. Rai Krief, qu'avez-vous ressenti en ce 10 mai 1990, quand vous avez appris la nouvelle de Carpentras?
Bah, un petit peu comme tout le monde, on est saisi, on est tétanisé, on est dans la sidération, comme toute forme d'attentat, même si elle est pas, il n'est pas commis à l'égard d'êtres vivants. J'étais un peu plus, j'étais peut-être un peu plus près et géographiquement et émotionnellement, puisque étant au rabbinat de grand rabbinat de Marseille, Jossi Truc venait de sortir de la ville, et donc tout le staff était sur place. On était à cette grande cérémonie, on va appeler ça, avec à la fois les hommes politiques et tout le rabbinat qui s'était déplacé. Je ne vais pas vous l'apprendre, tout était retransmis et dans toutes les ondes et toutes les télés. Donc on était au cœur de l'histoire, et comble peut-être des faits et des intersections des faits, c'est que la famille Germont était une partie de la famille Germont était à Marseille et nous connaissions la famille Germont. Donc c'était assez étonnant, c'était d'autant plus ça nous remuait d'autant plus. Donc on était un petit peu en première ligne. Voilà pourquoi je parlais à la fois sur le plan géographique et émotionnel.
Absolument. Alors, on va rester quelques minutes en 1990 et ensuite on parlera de l'antisémitisme aujourd'hui, hein, en 2019. Cette affaire, on l'a vu, s'inscrit dans un contexte bien particulier. C'est celui de la jonction des années 80 et 90, une période où le Front National tient un discours particulièrement clivant et où il est écouté, contrairement à ce qui se passait avant. Et c'est à ce moment précis que le gouvernement tente de faire voter la loi Guesso qui réprime le racisme et l'antisémitisme. Alors, beaucoup ont dit dans la presse qu'il s'agissait à ce moment-là d'un texte de loi cache-misère, seul artifice qu'on ait trouvé pour tenter de faire taire Jean-Marie Le Pen. Est-ce votre avis? Je m'adresse encore à vous, Raïk Rieff.
De faire taire à l'époque la tête numéro un de ce parti, non.
Que c'était en tout cas un cache-misère, que c'était pas suffisant.
Oui, non, c'est-à-dire en réalité, c'est un personnage qui aime croiser le fer. Et chaque fois qu'on s'attaque à lui, il y répond volontiers. C'est une façon de se mettre en lumière, c'est une façon de rentrer dans la diatribe avec qui que ce soit. Il n'y a pas une meilleure occasion, qu'elle soit juste ou fausse, qui lui soit donnée pour qu'il puisse rentrer dans l'arène, le monde politique comme il le souhaite. Donc en réalité, non, tout ce qu'on mettait tout le bois que l'on pouvait mettre au feu se consumait très vite. Donc il n'y avait pas, en termes de quantité ou de mesure, rien ne peut y faire face à un tel personnage dont on connaît la faconde et les expressions. Donc...
Bon, mais est-ce que, Mathieu Aron, est-ce que la loi Guesso, enfin la législation en vigueur est considérée comme, est-ce qu'on peut la considérer comme insuffisante au regard de cette recrudescence de l'antisémitisme ou de l'antisémitisme qui continue aujourd'hui? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que l'arsenal juridique est suffisant?
Lutter contre l'antisémitisme ou lutter contre le racisme, c'est toujours d'une complexité inouïe. Alors, il y a cette loi Guesso, bien évidemment. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, il y a d'autres questions qui se posent. En 30 ans, il y a quelque chose de fondamentalement différent qui est arrivé, c'est Internet. Et Internet a permis, pour le meilleur et pour le pire, malheureusement, une libération de la parole. Donc une libéralisation, une libération effectivement de l'injure antisémite aussi. Et ça c'est fondamentalement différent, ce qui fait qu'aujourd'hui les autorités politiques, c'est ce qu'a annoncé le président de la République il y a quelques semaines, réfléchissent à une nouvelle loi sur l'Internet. Donc c'est effectivement ça aujourd'hui qui est l'enjeu, une loi qui devrait être présentée au Parlement en mai prochain, qui prévoit en quelques mots, de demander aux hébergeurs et aux serveurs de supprimer beaucoup plus vite les contenus racistes ou antisémites, en s'inspirant d'ailleurs d'un exemple qui existe en Allemagne, où cette loi fonctionne, et fonctionne plutôt bien. Elle fonctionne plutôt bien parce que si les hébergeurs et serveurs ne suppriment pas dans un délai très court, qui peut aller de quelques heures à 24 heures, les contenus, ils risquent des amendes très importantes qui peuvent s'élever jusqu'à 50 millions d'euros. Donc il y a un côté dissuasif très fort. Voilà, c'est un des éléments qu'on va mettre à nouveau en place. Mais on sait bien que il n'y a pas que c'est pas la loi elle seule, c'est pas la justice toute seule, c'est pas la police, c'est pas la gendarmerie qui arriveront forcément à supprimer entre guillemets des comportements antisémites. C'est beaucoup plus global,
c'est un vrai travail d'éducation.
C'est un vrai travail d'éducation et qui doit être mené d'abord et avant tout dans les écoles.
Et à long terme.
Voilà.
À long terme. On va écouter une archive ensemble et vous allez comprendre pourquoi on l'écoute. Dans les jours qui suivent la découverte de la profanation, l'émotion en France est très vive, on l'a dit. La manifestation du 14 mai rassemble plus de 200 000 personnes avec la participation du président de la République. On l'a dit aussi, mais c'est important. Et on va écouter cette déclaration d'Elie Wiesel, présent au cortège.
J'arrive pas à comprendre que les êtres humains puissent commettre des actes si barbares. Tuer les morts une deuxième fois, quand même mutiler les morts Ça prouve quoi? Qu'ils sont forts, qu'ils sont haineux, on le sait. Mais que veulent-ils prouver par là? Je n'arrive pas à le comprendre. Sauf que je pense que la société en France devrait maintenant faire un examen de conscience. Et c'est urgent. Or, il faudrait créer un climat de sincérité tel que ces gens et ces groupes soient réduits au silence par la honte. Simplement que la société le rejette, le récuse, le refuse, le refoule. Par quels moyens? Bien sûr, par des moyens légaux. Et surtout par l'éducation, les médias, les intellectuels. Il faut qu'il y ait un tel sursaut de colère et d'écœurement que tous ces racistes et tous ces malades moraux, il y a des malades moraux de même qu'il y a des malades mentaux, qu'ils sachent qu'ils n'ont pas de place dans la société française.
Mathieu Aron, c'est vous qui avez réalisé cette interview d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Ce qui me frappe beaucoup en réécoutant ce qui s'est passé en 1990, pour avoir été journaliste sur France Inter à cette époque, et avoir, comme on dit, couvert ces manifestations, c'est le choc profond qu'il y a eu quand même dans l'opinion. C'est-à-dire que les Français sont sortis dans la rue pour dire leur émotion. Et ils sont sortis par centaines de milliers ce jour-là.
On y vient justement.
Et aujourd'hui, pour avoir refait pour un autre média, l'Obs, une enquête très récemment, il y a quelques semaines, sur comment la communauté juive française pouvait ressentir cette montée à nouvelle de l'antisémitisme, ce qu'il y a de frappant, c'est de voir qu'il y a une banalisation extrême quand même de cet antisémitisme. Et c'est ce qu'il y a vraiment de plus troublant et de plus inquiétant aujourd'hui, je crois.
La banalisation, bien sûr. Pourquoi aujourd'hui la mobilisation, en fonction de ce qu'on vient de dire, ça qui est étonnant, la mobilisation n'est pas aussi forte par rapport à ce qui s'est passé. Je rappellerai quelques faits qui viennent de se passer là. Et évidemment, la liste n'est pas exhaustive, elle est déjà impressionnante quand on en donne 4 ou 5. La mobilisation me paraît beaucoup moins forte aujourd'hui en France, Ryan Krieff, qu'en 90, et pourtant il y aurait des raisons de se mobiliser. C'est troublant ça aussi.
C'est troublant, mais il faut se mettre aussi à la place de la société. C'est moi qui ne vais pas me faire l'avocat, mais pourquoi pas. Imaginez le caractère itératif justement des actes antisémites. Combien de fois allons-nous faire des manifestations? Combien de fois allons-nous sortir? On peut aussi se poser la question de savoir à quoi sert une manifestation.
Oui.
À quoi ça sert d'aller allumer des petites bougies, déposer des fleurs, parce qu'en réalité, l'humain s'aperçoit qu'il est complètement impuissant, qu'il peut plus rien faire et que tout s'est passé malgré lui, et que dans notre impuissance, on doit bien caractériser une forme de présence, ou sinon, je n'existe même pas par quoi que ce soit. Donc, on est dans un cérémonial. On n'est peut-être pas au cœur du problème avec ce cérémonial, mais je peux pas non plus accuser la société française que de ne pas sortir à chaque fois. À la limite, je pourrais dire, elle en a marre. Il y a tellement d'attentats, et puis on peut les lister cette fois-ci, parce que entre Elie Wiesel qui parle, ça semble un peu vintage ce qu'il dit, avec ce côté moralisateur, mais tellement intéressant. Mais regardez comment à la fois ça a décuplé dans l'horreur, dans la force, dans l'intensité, dans le nombre. Donc qu'est-ce qu'on peut demander aux gens? Il faut vivre dans la rue.
Ouais.
C'est pas possible.
Bien sûr.
C'est pas possible et je comprends parfaitement ce que vous dites. Après, on peut quand même être frappé par le fait que entre la profanation du cimetière de Carpentras en 1990, qui avait suscité cette émotion très forte en France. Alors, on peut être ému sans forcément aller manifester, mais cette émotion en France. Et pour reprendre par exemple ce qui s'est passé au moment de l'affaire Merah, quand Merah va assassiner à bout portant des enfants dans une école juive à Toulouse, il y a quelques milliers de personnes qui défilent à Toulouse et puis pratiquement rien d'autre en France. Et incontestablement, il n'y a pas eu cette émotion à ce moment-là. Il n'y a pas eu cette prise de conscience même, je dirais. Oui, bien entendu, je vous entends, on n'est pas obligé d'aller manifester à chaque fois et puis à quoi bon? On peut se dire tout à fait naturellement. Il n'empêche que l'indignation, l'émotion, le fait de dire plus jamais ça, je crois que là, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé depuis 1990, c'est-à-dire qu'il y a des digues qui ont sauté. C'est-à-dire qu'on dit, et c'est pas bien de le dire comme ça, qu'une parole s'est libérée, pas du tout, elle s'est pas libérée cette parole, c'est une parole haineuse qui aujourd'hui apparaît de plus en plus. Et ça, je crois que c'est assez, oui, je le redis, je trouve que c'est assez troublant. Oui.
Dans son livre « Réflexion sur la question antisémite », Delphine Horviller explique qu'il y a une distinction fondamentale entre l'antisémitisme et les autres racismes, à travers une phrase très forte aussi, les racistes. Ces derniers, écrit-elle, expriment généralement une haine de l'autre pour ce qu'il n'a pas, la même couleur de peau, les mêmes repères culturels ou la même langue. Le juif, au contraire, est souvent haï pour ce qu'il a. On ne l'accuse pas d'avoir moins que soi, mais au contraire de posséder ce qui devrait nous revenir et qu'il a sans doute usurpé. Il y a là la dénonciation, Raïf-Krief, de tous les fantasmes qui sont le socle de l'antisémitisme.
On doit obligatoirement surdoser l'appréciation que l'on a de quelqu'un que l'on ne connaît pas. De toute façon, quand vous avez commencé par la phrase de Jean-Paul Sartre, cette notion de peur, de l'ignorance de l'autre, fait qu'on va quelque part le caricaturer. Et dans notre caricature, grossière obligatoirement et réductrice, on va obligatoirement attenter à sa véritable image. Il est impossible d'avoir en réalité l'image de quelqu'un, ou l'image d'une société, ou l'image d'un concept. On peut tangenter, on peut s'en approcher. Et donc, lorsqu'on est dans cette peur panique, effectivement, notre caricature vient à amputer ou à surdoser, parce que c'est le problème. Ou je rajoute, ou je retire. Donc, je peux effectivement condamner le juif. En réalité, il a été condamné par pratiquement tout. Donc, ou de ce qu'il a et de ce qu'il n'avait pas, ou de ce qu'il n'avait pas, positif, négatif. Donc, ça ne va pas solutionner l'analyse, comme le disait
notre
confrère, oui, Mathieu Aron, comme il disait, ça ne va pas solutionner l'analyse même du fait antisémite.
Oui, mais ça renvoie quand même effectivement à ce que disait Mathieu, la lutte contre l'antisémitisme passe par un travail d'éducation qui porte pas forcément ses fruits tout de suite, à long terme, parce que l'ignorance est un des éléments de l'antisémitisme. Alors il y a un antisémitisme politique, culturel, djihadiste, pourquoi pas, et puis il y a celui qui est généré par l'ignorance, et celui-là il est grave.
Pardon de vous interrompre, mais en parlant d'ignorance, il y a l'ignorance volontaire.
Et il y a l'ignorance volontaire aussi. Mais enfin, il y a aussi l'ignorance, mère de tous les vices quand même.
Alors, il y a des... C'est toujours très, très compliqué comme notion, mais il y a des distinguos qu'on peut faire quand même, même si on est obligé de simplifier. C'est vrai que quand on parle de racisme aujourd'hui en France, on a l'habitude de dire que c'est une personne qui considère que des gens appartenant à d'autres groupes sont inférieurs. C'est des gens qu'on l'on voit péjorativement de manière, voilà, ils sont inférieurs parce qu'ils, on connaît tous les poncifs, hein, ils ne travaillent pas, etc., etc. Dans l'antisémitisme, il y a quelque chose d'assez différent, en tout cas aujourd'hui, c'est que on ne considère pas l'autre comme un dominé, mais comme un dominant. En réalité, on prête aux juifs le fait que il essaye de vous dominer. Et ça, c'est la différence fondamentale. Et à partir du moment où il essaye de vous dominer, forcément, il a du pouvoir caché, forcément, il a de l'argent, forcément, il appartient à des groupes d'influence.
Il est dangereux, s'il a le pouvoir caché.
Il est dangereux. Voilà. Et il y a quelque chose qui va de pair, c'est que la lutte, entre guillemets, contre les juifs, peut prendre l'aspect d'un mouvement d'émancipation. Parce qu'on lutte contre des gens qui souterrainement vont essayer de dominer le monde, ou en tout cas dominer leurs semblables, en étant les plus riches. Et donc, forcément, cet antisémitisme peut percuter avec d'autres discours politiques, peut percuter avec des luttes sociales. Et donc, il y a une confusion qui s'installe, ce qui explique que, au travers d'un certain nombre de rassemblements, on a pu voir en marge, des rassemblements des gilets jaunes, des pancartes, des écriteaux, ce qui explique aussi que on traite le président de la République de youpin, qu'on l'accuse d'être en lien avec la banque Rothschild, etc. Ouais. Donc voilà, c'est une forme d'antisémitisme qu'on a aujourd'hui et qui est assez prégnante, parce que je pense que cette forme, elle se diffuse dans plusieurs strates de la population et qu'on n'est plus face à des extrémistes qui tiennent des discours haineux, qui sont diffusés comme ils étaient diffusés il y a 40 ou 50 ans chez certains bouquinistes Ketsen, qu'on est par rapport à ce type de langage qui aujourd'hui se diffuse de manière massive via Internet.
Voilà, et on en revient aussi à l'affaire du jeune Ilan Halimi, torturé. Au départ, le gang des barbares, son argument était de dire on va séquestrer un juif parce qu'il a de l'argent. Voilà, l'antisémitisme, comment ça, évidemment.
Une demande de rançon, effectivement.
C'est la phrase est typiquement antisémite, on est d'accord.
Mais pour rebondir sur ce que disait Mathieu Aron, tout ça aussi fonction d'un milieu socioculturel. Dans le spectre sociétal, on a toute forme de pensée. On peut prendre effectivement un axe médian autour duquel tournerait cette théorie un peu fumeuse, effectivement. Mais tout le monde ne tient pas à ce discours. Le problème de l'antisémitisme, c'est qu'il est nourri par différents discours. Et à la limite, les différentes strates de la société ne se rencontrent pas sur les mêmes plateformes de réflexion et de discussion, c'est-à-dire en termes de discours. Donc la construction de cette tour de Babel de la folie de l'antisémitisme est stratifiée, je dirais, à la des étages avec des gens qui ne se connaissent pas pour autant, ne communiquent pas pour autant. Donc ça complexifie, si vous voulez, à la fois en termes d'analyse, à la fois, j'aime pas le terme de combat, mais on va dire de réplique à pouvoir donner, parce que d'abord la société est complexe par nature. Il n'y a pas une forme de pensée globale à laquelle tout le monde sacrifie. Donc, si vous voulez, j'adhère à ce que vous avez dit, mais je le prends comme étant une bande passante dans une fréquence donnée.
Mathieu, vous répondez, et après on passera à une autre question.
Pour rebondir sur ce que vous soulignez, je suis totalement d'accord avec vous. Il m'apparaît aujourd'hui que s'il y a un point de jonction entre ces différents antisémitismes, entre cet antisémitisme qui peuvent avoir des origines culturelles radicalement différentes, on peut le trouver, me semble-t-il, dans une forme d'antisionisme qui peut réunir...
Aujourd'hui,
je parle bien aujourd'hui, qui peut réunir effectivement les différents groupes sociaux auxquels vous faisiez référence. D'ailleurs, il y a Jean-Yves Camus qui récemment, lors d'une audition devant l'Assemblée nationale, a expliqué que on pouvait trouver une convergence entre certains mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche dans l'antisionisme. Mais globalement, je crois que s'il y a un point de jonction, il est probablement là aujourd'hui.
La frontière est poreuse entre l'antisémitisme et l'antisionisme. C'est important parce qu'on l'a vu d'ailleurs avec l'épisode de l'insulte jetée à la figure d'Alain Finkielkraut, où le type dit « sale sioniste ».
Non, il lui dit « retourne dans ton pays ».
Oui, retourne dans ton pays. Il passe à lui.
Lui qui est un vrai français de souche, absolument. Il dit « retourne dans ton pays ».
Porosité sémantique et porosité tout court entre les termes d'antisémitisme et d'antisionisme.
D'abord l'amalgame, par gain de temps et par retrécissement de l'esprit. L'amalgame était d'une grande simplicité et ça permet de frapper parce que quand vous voulez agresser quelqu'un, il faut obligatoirement lui envoyer quelque chose. Donc ici, on est dans le verbal. Donc il faut faire un magma de quelque chose. Donc oui, c'est si on peut frapper par ricochet ou pas, et la nation, et un peuple, et une théorie, pourquoi pas.
Est-ce que Mathieu Aron, du côté de l'extrême gauche, par exemple, on a un comportement donc anti-sioniste, tellement anti-sioniste, qui peut dériver sur l'antisémitisme, sur cette frontière pour eux, justement?
Alors, c'est assez complexe, parce que on va parler d'une gauche radicale.
Oui.
Prenons cette expression-là. Il est évident que, comment dire ça, la figure du héros, et en particulier du héros tel qu'ont pu l'imaginer les communistes à certaines époques, du héros prolétaire, aujourd'hui, cette figure, elle est morte. Elle est morte parce que la classe ouvrière n'est plus, et parce qu'une partie des populations qui existaient à ces endroits-là se sont détournées, on le sait, vers le Rassemblement national. Aujourd'hui, une partie de la gauche radicale soutient le combat de nouveaux opprimés, qui sont incontestablement des populations qui vivent en banlieue, qui sont d'origine immigrée et qui souffrent de discrimination. Dans cette population-là, on peut trouver, par un héritage culturel, une forme d'antisémitisme qui s'explique parce que on a une forme d'antisémitisme, on va dire, arabo-musulman. Et là, l'antisionisme est très fort. Donc, en soutien à ces populations qui font incontestablement l'objet de discrimination en France, on peut trouver une partie de la gauche radicale qui n'est pas antisémite.
Oui, mais justement, est-ce que c'est une dérive ou est-ce que c'est un masque?
Qui n'est pas antisémite, mais qui peut comprendre l'expression d'un antisémitisme. Qui tolère l'expression d'un antisémitisme. ce qui, je crois, est une pente très dangereuse.
En 2018, je rappelle, en 2018, aujourd'hui, enfin, l'an dernier, c'est aujourd'hui, les faits antisémites ont augmenté de 74% alors que les juifs ne représentent que 0,7% de la population dans ce pays. Ça, c'est une statistique très dure et dans l'actualité de ces dernières semaines, là on est dans la réalité concrète, palpable, les derniers actes antisémites dont la presse a parlé, les injures à l'encontre de Anna Finkielkraut, les croix gammées sur les tombes du cimetière juif de Erichheim en Alsace, les symboles nazis tagués sur les portraits de Simone Veil, des manifestants faisant le signe de la quenelle, ce geste de Dieudonné de ses supporters, là. Ou encore le mot Juden, peint sur la vitrine d'un restaurant. Voilà, ce sont juste des faits. Je voudrais terminer cette conversation juste par l'exposé des faits, parce que les faits ne mentent pas, les faits disent beaucoup de choses. Merci infiniment Mathieu Aron, merci Raï Krief d'avoir participé à ce débat dans Affaires Sensibles. Au revoir messieurs.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la profanation du cimetière juif de Carpentras, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr et merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui.